Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous propose de commencer les travaux de la matinée. Et il revient donc à un helléniste de tenter de présider cette séance. Je vais tout d'abord donner la parole à Lynn Bansaboudon, à qui nous devons l'organisation de ce colloque. Je ne pense pas qu'il soit utile de présenter Lynn Bansaboudon, sinon pour rappeler qu'elle occupe à l'École pratique des hautes études la chaire des religions de l'Inde, études shivaïtes. Et elle va nous parler des enjeux spéculatifs de la philologie en contexte indien. Alors, avant que Lynn Bansaboudon commence à parler, je demande à tous les intervenants de se tenir rigoureusement aux 30 minutes qui leur ont été accordées. À la suite des trois premiers exposés, nous aurons un quart d'heure de discussion. Ce quart d'heure sera introduit par les réflexions de Matthew Kapstein. Ensuite, je donnerai la parole à celles et ceux d'entre vous qui voudront poser des questions. Mais il m'a été demandé d'être strict sur l'horaire et je me permets de formuler donc cette demande auprès des communicants. Voilà. Donc, Lynn Bansaboudon va nous présenter actuellement sa conférence avec le support d'un PowerPoint.
Merci. J'aimerais revenir sur quelques-uns des propos qui ont été tenus hier. Et j'ai relevé effectivement dans la lecture de la communication de Madame Deschpandé des observations d'un certain intérêt, l'une à propos de ce renversement de l'axe temporel qui nous avait fait sourire, c'est-à-dire que pour la tradition, Panini et Katyayana reconnaissent l'autorité d'un épigone, en l'occurrence plus tardif qu'eux, donc, qui est Patanjali, et l'autre observation à propos de Bhattodji, affirmant que l'auteur des sutras, c'est-à-dire Panini, n'a pas en vue les Vartikas de Katyayana quand il compose ses règles. Nous verrons que peut-être les textes que je vais examiner auront une réponse à apporter. Ensuite, Maria Piera Candotti a posé la question du texte, de l'auteur, du commentaire, et plus exactement... Je suppose qu'on m'entend. Du texte, de l'auteur, du commentaire, et plus exactement, en quoi consiste l'acte de commenter et quel est son but. Peut-être également les textes que je vais regarder aujourd'hui avec vous pourront-ils apporter une sorte de réponse. Donc je me suis intéressée au Spanda Karika et au Nirnaya, qui offrent l'occasion de voir à l'œuvre la construction conjointe d'une tradition textuelle et de son exégèse. Je voudrais examiner ici le subtil jeu de force qui régit la genèse d'un énoncé, ici un shastra. Tout est parti d'une brève observation de Kshemaraja dans son Nirnaya au premier vers des Spanda Karika. Donc je commence par le texte des Spanda Karika, au premier vers. Que je lis, Yasyon Mesha Nimesha Abhyam Jagatas Pralayaud Dayao Tam Shakti Chakra Vibhava Prabhavan Shankaram Stumaha. Je traduis très littéralement, nous louons ce Shankara, source du glorieux déploiement de la roue des énergies, par l'Unmesha et le Nimesha duquel adviennent l'apparition et la disparition du monde, plus exactement dans l'ordre, la disparition et l'apparition du monde. Je n'ai pas traduit « Unmesha Nimesha » parce que précisément ça fait l'objet de très longs commentaires. Disons que dans un premier temps, c'est l'ouverture et la fermeture des paupières. Dans son Nirnaya, Kshemaraja a donc une brève observation qui est presque une énigme, en tout cas une bizarrerie, sur laquelle j'ai voulu mener l'enquête puisqu'elle n'avait pas retenu l'attention. Donc, voici, vous l'avez également sur l'exemplier qui a été distribué. Je le lis rapidement. Yasya swatantriya shaktya ititiaktwa Yasyon meishan ni meishan biam iti, nyarupi guruna, que je traduis en suppléant la tournure yasyon meishan ni meishan biam, c'est-à-dire par l'unmeisha et le nimeisha duquel, a été choisi, nyarupi, c'est un aoris passif troisième du singulier, par le maître ayant abandonné la tournure yasya, swatantriya, shaktya, c'est-à-dire par l'énergie de liberté duquel, etc. Disons d'emblée que, eu égard au contexte de la phrase et eu égard également au vers 53, comme nous verrons plutôt plus loin, vers 53 des Spanda Karika, ce maître est l'auteur du traité, c'est-à-dire Vasugupta. Selon l'opinion de Kshemaraja, la question de l'auteur des Spanda Karika est un débat à date ancienne. Il m'a semblé que cette observation offrait une clé pour répondre à la question que se pose ce colloque. Et cela constituera le premier volet de ma contribution. Quelle est la posture philologique indienne, ou plutôt comment décrire ce paradigme particulier qu'est la discipline philologique considérée depuis la culture indienne? Et cette question se menait en plusieurs autres. La question de l'écriture, après tout, on a ici l'évocation de l'œuvre en train de se faire, Vasugupta renonçant à X et adoptant Y. Par conséquent, deux, la question des variants, qui nous a beaucoup occupé hier, qui sont ici, c'est l'hypothèse que je pose, des variables prises au trésor commun des mots. D'où, trois, la question de la transmission, quelle serait la source de ce Swatantriya Shaktya qu'aurait abandonné le maître. Et je laisse, permettez-moi de laisser un peu de suspens ici. Enfin, 4, la question de l'autorité au sens étymologique, ou plutôt au sens de l'anglais, authorship, c'est-à-dire la question de l'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur et, corrélativement, qu'est-ce qu'un exégète? La tradition, du moins celle dont se réclame Kshemaraja, inscrit ce texte humain, Paurusheya, que sont les Spandakarika dans le contexte spéculatif que lui fournit son mythe d'origine. Ce mythe fait des Shiva Sutras, un texte révélé, Apaurusheya, par Shiva à un disciple élu, Vasugupta, et fait donc des Spandakarika la mise en mots humain de ces Shiva Sutras par ce disciple, aussitôt promu au statut de maître, puisque chargé de propager la doctrine non-dualiste énoncée par le Dieu en personne. Cela dans un contexte, dans le contexte d'un Cachemire où la pensée dualiste, nous raconte le mythe d'origine, est en passe de prévaloir. En ce sens, les Spandakarika sont déjà une exégèse au Shiva Sutra. La version du mythe d'origine que présente Kshemaraja dans ses gloses enseigne en effet que Vasugupta, ayant compris le sens profond des Shiva Sutras, en produisit la synthèse, c'est une des façons de traduire Sangrihita Van, pour mieux les transmettre. Ceci, c'est dans la Shiva Sutra Vimarshini que vous trouvez dans votre exemplier, handout numéro 3. Les Shiva Sutras seraient ainsi la doctrine, les Spandakarika l'exposé de la doctrine, en tant qu'elles en présentent la synthèse à des fins didactiques. Cette fin didactique est un point important. Synthèse qui n'empêche pas les développements, puisqu'après tout, les sutras des Shiva Sutras deviennent des shlokas. On peut dès à présent poser la question de l'autorité de ce texte. L'auteur humain qu'est Vasugupta est le porte-parole de Shiva, presque son prophète, si on élimine toutes les connotations que nous lui connaissons, et de la sorte son exégète. Ce premier auteur exégète, à son tour, est objet d'exégèse, et les exégètes, à leur tour, reconstruisent la doctrine ou la réagence jusqu'à modifier l'économie textuelle, comme nous verrons également dans le second volet. L'exemple le plus frappant est celui du Nirnaya, dont le dessein est de faire affleurer le plus possible le substrat spéculatif de son moula. Kshemaraja, en effet, s'efforce de faire valoir, là j'anticipe et je renonce au principe du suspens, Donc, il s'efforce de faire valoir, un, la dimension non-dualiste de la doctrine, deux, que les Spanda Karika sont des réalisations possibles de Paravach, la parole suprême, autrement dit, Parashakti, l'énergie suprême. Il veut montrer comment, sous les diverses modalités de la Vaikari, c'est-à-dire ce texte-ci qu'il commande, il faut être capable de remonter à la source, c'est-à-dire Paravach, la parole suprême. Bref, il donne, bien qu'indirectement, une des clés possibles des Spanda Karika, la manifestation du monde empirique conçue comme le produit du libre jeu de Shiva, coïncide avec l'émanation phonématique. Ce qui nous ramène à la composition et à la constitution du texte, c'est-à-dire à une approche éminemment spéculative de la philologie entendue comme l'examen de ce processus. Lorsqu'il évoque l'auteur occupé à choisir ses mots, Kshemaraja examine le texte en philologue et en philosophe. C'est cette lucidité et cette posture philosophique qui, à mon sens, sous-tendent l'observation que j'ai commencé d'examiner avec vous, la tournure X préférée à Y. Car la remarque ne manque pas d'intriguer. La tournure X est « un méchant ni méchant » du premier vers, mais qu'est-ce que la tournure Y? Pourquoi celle-là en particulier? Il faut regarder le passage qui précède immédiatement dans le long commentaire du Nirnaya. Après avoir longuement examiné le foisonnement des interprétations possibles du premier vers, le Nirnaya offre une dernière interprétation en diptyque, selon qu'il est ou non tenu compte de l'ordre des mots dans le vers. Deux façons de comprendre en effet, soit se fiant à l'ordre des mots dans chacun des deux composés, un méchant pour le premier, pralaya pour le second, et de même ni mécha ou daya. Donc soit on comprend que par l'ouverture des yeux, le Seigneur révèle sa vraie nature, avec pour conséquence la dissolution du monde extérieur, et que pour la fermeture des yeux, il voile sa propre essence, ce qui a pour effet, paradoxalement, de faire apparaître le monde. Soit c'est le contraire, et l'explication est plus immédiate et naturelle, par l'ouverture des paupières, le Seigneur fait advenir le monde extérieur dans lequel il se manifeste, tandis que par leur fermeture, il le réabsorbe en lui-même, et qui est pure conscience. À l'appui de cette dernière interprétation, Kshemaraja cite Ishvara Pratyabhijna Karika 1, 6, 7, qui apparaît sur l'écran et qui est dans votre exemplier numéro 4. Je traduis partiellement, parce que nous manquons de temps, le Seigneur manifeste à l'extérieur par sa volonté, Ichaya, la masse des objets qui brillent en lui. Et c'est là que Kshemaraja conclut, et je cite à présent la phrase dans sa totalité telle qu'elle apparaît également sur l'écran, « Evam vidartha parigrahaya pi yasya swatantriya shaktya iti tyaktva » etc. C'est-à-dire, c'est pour permettre la saisie de pareils sens, et sans doute faut-il entendre là la multiplicité des sens inhérents à cette expression « un méchant ni méchant », c'est pour permettre la saisie de pareil sens que X a été choisi par le maître ayant abandonné Y. Selon Kshemaraja, ce vers des Ishvara Pratyabhijna serait donc à lire également en un sens second, en vertu duquel le monde empirique serait le produit de l'Unmesha du Seigneur. À présent, revenons à la tournure Y. D'où vient ce Swatantriya Shaktya, sinon eu égard à ce qui précède immédiatement du texte des Ishvara Pratyabhijna qui s'y trouve cité. Lorsque Kshemaraja mentionne à l'instrumental la Swatantriya Shakti, c'est-à-dire l'énergie de liberté, c'est en manière de glose à l'Ichaya du vers d'Utpaladeva. Le Nirnaya nous montre ainsi un auteur, Vasugupta, saisi dans la posture de l'exégète, lequel, à la façon du philologue, examine les variantes pour en rejeter une au profit d'une autre. Ce n'est donc pas un hasard si, dans un autre passage, le Nirnaya emploie un schéma syntaxique et morphologique identique à celui que nous venons d'examiner, mais appliqué cette fois à Kallata en sa qualité de première exégète. Le texte apparaît ici sur l'écran et vous le trouverez dans votre exemplier à la rubrique 6. Je traduis en résumant. C'est pourquoi le terme Unmesha Nimesha Abhyam a été expliqué par Kallata par un terme unique, à savoir Sankalpa Matrena, littéralement par la seule volonté duquel, ou Sankalpa est au sens de Icha, l'énergie de volonté du Seigneur. C'est ainsi, me semble-t-il, que Kshemaraja décrit en miroir le travail de l'auteur et celui de l'exégète. L'auteur est exégète, l'exégète est auteur. Interchangeabilité des rôles, des compétences et aussi des méthodes, comme on peut le voir. Le texte de Kallata apparaît sur l'écran et sur votre exemplier numéro 7. Je ne m'y attarde pas. Mais j'aimerais rappeler d'un mot, pour que l'exposé soit plus facile à suivre, la parampara des exégètes, dans l'ordre Kallatan, Ramakantan, Utpala Vaishnava, Kshemaraja, lequel est un disciple au second degré d'Utpaladeva. Or, Ramakanta, auteur de la Vivritti, qui est un sous-commentaire à la Vritti de Kallatan, glose également le Sankalpa de Kallata par Icha. C'est ici le dernier élément de mon tableau, de ma diapositive, et vous en trouvez le texte dans l'exemplier numéro 8. Je traduis « afin de montrer », donc c'est Ramakanta qui glose Kallata, « afin de montrer que le sens véritable, Tatparyam, dont nous avons entendu parler hier, de Unmesha Nimesha n'est autre que Icha, la volonté, Kallata, dans sa vritti, a glosé Unmesha Nimesha par Sankalpa Matrena, c'est-à-dire par la seule volonté duquel. Il ressort de tout cela qu'au début de la chaîne de transmission, Vasugupta privilégie la métaphore, Unmesha Nimesha, tandis qu'Utpaladeva choisit la formulation directe, Ichaya, et que les deux exégètes, Kallata et Ramakanta, expliquent le Dvandva originel, ou de Mesha Nimesha, par un simple. Kshemaraja, quant à lui, soutient l'emploi de la métaphore par Vasugupta. Pour Kshemaraja, en effet, mais là c'est moi qui interprète, Utpaladeva d'une part, Kallata et Ramakanta de l'autre, auraient en quelque sorte choisi la lectio facilior, Vasugupta la difficilior, en ce qu'elle ouvre le champ d'une multitude de significations, y compris les plus paradoxales, à savoir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que l'ouverture des yeux signifie l'avènement de l'intériorité, et inversement, que la fermeture des yeux signifie l'avènement de l'extériorité. Commentant le Sankalpa Matra de Kallata, Ramakanta, au contraire, en tire parti pour souligner et même implicitement dénoncer la métaphore dans le choix de Vasugupta et lui préférer la glose de Kallata. À cette préférence affichée pour la tournure de Kallata, qui est, je vous le rappelle, Sankalpa Matrena, Ramakanta donne de façon indirecte une justification d'ordre doctrinal et philosophique. La dualité inhérente au Dvandva, ou Unmesha Nimesha, contrevient ou contreviendrait à l'essence même du non-dualisme de la doctrine. Ainsi, ce n'est que par métaphore, et nous verrons que Ramakanta y insiste, que l'on peut dire que la manifestation et la dissolution du monde procèdent de Unmesha Nimesha. Pour Ramakanta, à l'évidence, l'unique cause est la volonté Icha du Seigneur. Donc le texte est dans votre exemplier numéro 8. Pourtant, Kshemaraja, à partir des mêmes prémices, la glose de Kalata, dont on a vu qu'il l'avait lui-même commentée, parvient à la conclusion opposée. L'emploi par Vasugupta du Dvandva Unmesha Nimesha n'implique pas dichotomie, ce qui était la critique de Ramakanta, mais simultanéité. La conscience, principe unique, est simultanément Unme Yugabat, dit le texte, Unmesha Inimesha, ce qui est une façon de traduire le jeu incessant de manifestation et de dissolution auquel s'adonne le principe suprême. Et l'unicité de ce principe, loin d'en être altérée, ne peut se concevoir sans cette expression de sa liberté essentielle. Et pour Kshemaraja, c'est précisément ce que veut dire Kallata. C'est-à-dire que Kshemaraja interprète très différemment de Ramakanta. Kallata, en glosant le Dvandva par un terme unique, Sankalpa, au sens de Icha et de Icha Shakti. Par conséquent, la conclusion implicite est que Vasugupta a raison de préférer le Dvandva à un simple qui en réduirait la teneur. Dualisme, non-dualisme, voilà, me semble-t-il, le premier des enjeux spéculatifs et aussi poétiques sous-jacents au choix d'auteur, respectivement opéré par Vasugupta et ses successeurs. Le Nirnaya défend le choix de Vasugupta, soulignant par ailleurs que les deux catégories d'enjeux sont indissociables, philosophiques et poétiques. Pas de bon penseur de la doctrine sans la capacité poétique à faire servir son texte à l'intelligence du système. Ce sera développé dans le Nirnaya au moment de commenter les vers 52 et 53, comme nous verrons. Considéré de ce point de vue, l'observation X a été choisie au lieu d'Y confirme l'hypothèse que j'ai avancée au début. Un auteur ne fait que puiser avec ses moyens propres dans le trésor commun d'une doctrine encore sous la forme de la masse indifférenciée des mots et des sens qu'est le Shabdarashi, un trésor commun qui n'est autre que Paravach, la parole sous sa forme précognitive, antérieure à tout contenu circonscrit. Autant dire, cette parole divine, et c'est une Shakti, dont Shiva a permis l'accès à Vasugupta. Et à mon sens, ce serait la seule explication possible de cette sorte d'énigme qu'est le rejet opéré par Vasugupta d'une variante qu'un autre après lui utilisera, puisque d'après l'analyse que je fais du texte, ce Swatantriya Shaktya ferait référence au Ichaya de Utpaladeva. Vasugupta, envisageant toutes les formulations possibles de la doctrine, formulation nécessairement ultérieure, puisqu'il est le premier maillon humain de la chaîne, anticiperait sur celle que retiendra Utpaladeva et les autres. Tout se passe comme si Vasugupta, en Siddha qu'il est, avait la prescience de ce que pourraient écrire ses successeurs, et, supposant toutes les variantes possibles, arrêtait son choix. Donc, vous voyez, là, on a un élément qui fait écho à ce que nous avons vu hier dans le texte de Madame Deshpande. C'est-à-dire que Batoji prétend que Panini n'a pas en vue, Panini n'a pas en vue le commentaire de Katyayana lorsqu'il écrit ses sutras. Ici, Vasugupta semble avoir en vue le futur commentaire ou le futur texte d'Utpaladeva. Ce trésor commun des mots et des sens dans lequel chacun des penseurs de la doctrine puise pour construire un texte constitue une approche à chaque fois différente de la même réalité. Ainsi, l'écriture du Shastra, sans cesse reprise, est-elle à chaque fois un nouveau point de vue sur la doctrine, presque un darshana. J'en viens au second volet de ma contribution. La fin du texte, dans l'économie que lui fabrique Kshemaraja, conforte ce qui, au début de ma lecture, n'était qu'une intuition et qu'une hypothèse. Car la 52e et la 53e strophe, introduites par Kshemaraja, rendent hommage, l'une à cette parole suprême, dont nous avons parlé, l'autre au trésor de la connaissance, Jnana Dana, que cette parole exprime. Je passe à... Pas encore, voilà. À un tableau qui fait figurer les trois vers qui m'intéressent, les trois derniers vers, 51, 52 et 53, mais il est reproduit dans l'exemplier. Bien. Il me semble qu'il y a là le deuxième enjeu philosophique, je dis deuxième parce qu'il y en a plusieurs, peut-être probablement plus que deux. Deuxième enjeu philosophique que je propose de lire sous la remarque « X a été choisi pas par le maître au lieu d'Y ». Il faut noter que cette strophe, la 52e, dans le texte établi par Kshemaraja, est une accrétion au texte original qui n'en compte que 51, selon le mythe d'origine que rapporte Kshemaraja lui-même. Je ne m'y attarde pas, le texte est dans l'exemplier numéro 9. Quant au vers 52, il figure et sur l'écran et dans vos exempliers, je le donne en traduction. Je salue cette merveilleuse parole du maître, Guru Bharati, aux mots et aux significations extraordinaires, elle qui est la barque, la métaphore nautique dont on nous a parlé hier, elle qui est la barque qui fait traverser l'insondable océan du doute. Or, ce vers 52 est un bel exemple de l'histoire d'un texte qui s'augmente d'éléments extérieurs, en l'occurrence ici une strophe d'hommage de Kallata à son maître, la strophe figurant dans l'exemplier numéro 11 et également ici. Dans le commentaire de Kallata au Spandakarika, en effet, la strophe 52 est clairement étrangère au texte source, justifiant par là que le sujet grammatical y apparaisse à la première personne, Vande, je salue. En effet, celui qui salue la Guru Bharati, la parole du maître, dans le texte de Kallata, c'est évidemment Kallata, son disciple et son exégète. Or, Kshemaraja s'empare de cet hommage final, d'un exégète antérieur, c'est-à-dire d'un péritexte, pour en faire du texte à part entière. En opérant un glissement aussi subreptice qu'assumé. De façon délibérée, comme le fait valoir son préambule au vers 52, voilà, miracle de la technique, son préambule au vers 52, Kshemaraja attribue à Vasugupta la strophe composée par Kallata en l'honneur de son maître, ce qui a des conséquences considérables, non seulement sur l'économie des Spandakarika, mais aussi sur les enjeux métaphysiques de la doctrine. Voyez l'exemplier numéro 12. Et, raffinement ou ingéniosité extrême, Kshemaraja va jusqu'à lire un shlesha dans cette strophe, à l'autorité pourtant usurpée, puisqu'elle n'est pas l'œuvre de Vasugupta, comme il le prétend. Confirmant ainsi, puisqu'il y voit un shlesha, confirmant ainsi le statut de poète de l'auteur des Spandakarika. Dans ce premier vers additionnel, Guru Bharati est à un premier niveau de sens la parole du maître, c'est-à-dire un tatpurusha. À un second niveau de sens, la grande parole, guru au sens de mahat. Ici, paravach, comme il est dit explicitement dans le passage du Nirnaya que vous trouvez dans le handout 12. Je ne m'y attarde pas, vous voyez que Param Vacham est partout présent. Vous voyez comment la glose, donc, s'appuyant sur le sens second de Guru Bharatim, fait du texte commenté l'œuvre d'un poète expert en l'agencement merveilleux et plaisant des mots et des sens. D'autre part, on voit les conséquences ultimes de cette appropriation du vers de Kallata par Kshemaraja. Si le locuteur de la strophe 52, comme le prétend Kshemaraja, est bien Vasugupta, le maître dont on salue la parole ne peut être que Shiva, celui du mythe d'origine. La strophe 52 offrirait ainsi à Kshemaraja une occasion supplémentaire d'inscrire les Spandakarika dans la parampara des Shiva Sutras et de montrer comment un texte Paurusheya surgit d'un texte Apaurusheya. D'autre part, si Guru Bharati est à entendre au sens second de la grande parole, c'est-à-dire Paravach, c'est-à-dire Shakti, une conclusion s'impose. Vasugupta, en vertu de ce même Shlesha dont parle Kshebaraja, offre un second hommage, et cette fois à Shakti. On a donc là deux hommages indissociables l'un de l'autre et mimétiques de l'essence non dualiste de la doctrine. De surcroît, de toutes les formes que Shakti est susceptible d'assumer, il est intéressant que dans le Nirnaya, ce soit sa forme phonématique que Vasugupta, alias Kshemaraja, puisque c'est lui l'auteur, retienne, enfin du moins lui attribue, retienne ici pour la célébrer. Et là, il y a un point qui me paraît digne d'intérêt. Le texte rend ainsi hommage à la parole, et ce faisant, il se rend hommage à lui-même. Il y a là un motif métapoétique. Il vaut la peine d'être relevé. L'enjeu du Nirnaya au vers 52 est destiné à prouver la suprématie du monisme Shaiva. Shiva est également Shakti et ce Nara qu'est Vasugupta. Poursuivons. Enhardi par ce coup de force à l'encontre du texte originel, Kshemaraja ajoute un 53e vers, mais cette fois-ci de son cru, c'est une pure forgerie, que signale du reste l'emploi d'un maître différent. C'est une aria. Notons que Ramakanta s'arrête au vers 52, qu'il attribue à Kallata. Il n'y a pas de vers 53. Utpala Vaishnava a un vers 53, qui est lui aussi de son cru et qui n'a rien à voir avec le vers 53 de Kshemaraja. Alors revenons à Kshemaraja, l'accrétion d'un 53e vers l'amène à s'écarter de l'économie ternaire du texte mis en place par Kallata. Kallata avait distribué les 51 strophes en trois nishyanda. Kshemaraja ajoute un quatrième nishyanda pour y transférer le vers 52 et trouver une place pour le 53. Non seulement il fallait un réceptacle pour ces deux accrétions, attribuées toutes deux à Vasugupta, mais il fallait les justifier en les faisant participer à part entière de l'exposé doctrinal. Je suis un peu en retard. Ce que j'aimerais souligner, c'est que le vers 53 a finalement le statut d'un vers signature. Vasugupta, par la voix de Kshemaraja, y parle de lui-même à la troisième personne, selon une procédure bien établie qu'on retrouve dans l'Avataranika de Utpala Vaishnava à son propre vers 53. Bon, je suis obligée de passer. En tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans chacun de ces vers 53, la signature est un faux. Mais, puisque la véritable autorité est voilée, cependant, cette fonction d'apocryphité est de bonne foi pour attester une tradition. Bon, j'essaie de conclure, juste une minute si vous voulez bien. Bien qu'il agisse quasi subrepticement dans sa réécriture de la fin du Shastra, Kshemaraja en donne une justification dans le premier des vers conclusifs. Considérant la tradition multiforme d'exégèse au Spandakarika, il en dénonce la superficialité et il lui oppose, je cite, « ces êtres exceptionnels qui, tels des cygnes sagaces, habiles à extraire pour s'en délecter le lait mélangé à de l'eau, seront capables de distinguer l'excellence de sa glose. » Fin de citation. Autant dire qu'il parle ici des Saridaya, capables d'apprécier sa glose. En fait, parlant des Saridaya, feignant de parler des Saridaya, Kshemaraja parle en vérité de lui-même et de ce que doit être à ses yeux un bon exégète. Il s'agit d'extraire l'essence d'un texte de la masse des mots qui le constituent. Et cela nous ramène à la remarque liminaire du Nirnaya, d'où nous sommes partis. L'auteur aussi travaille à tirer l'essence de la doctrine qu'il a été chargé d'exposer. Il choisit la leçon X de préférence à la leçon Y. Voilà donc l'une des modalités selon lesquelles l'Inde pense ce que l'Occident appelle philologie. En dépit des différences, c'est bien le même paradigme de base. Il s'agit d'aimer les textes, et même, puisque le logos est la parole, d'aimer la parole, vach, dans la variété des formes où elle se réalise. Je vous remercie pour votre attention.